Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, pour un des derniers numéros de la saison, puisque nous entamons le mois de juin et que Radio Présence passera en grille d'été à partir du 30. Il nous reste cependant encore quelques émissions d'ici là pour vous annoncer des événements comme Passe ton bac d'abord, dont nous recevions le directeur artistique Michel Brun la semaine dernière. Je rappelle que la 17e édition du festival a lieu cette année du vendredi 6 au dimanche 8 juin, avec une trentaine de rendez-vous à Toulouse. Du côté d'Albi se tient du 3 au 7 juin la 19e édition de Ton voisin, autour d'une thématique Schubert à Vienne. Bref, cette semaine est celle du grand lancement de la saison des festivals, et même Musique au Palais, dont chaque édition se déroule en automne au mois de novembre, propose un concert au Palais Niel, dimanche 15 juin à 17h. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Serge Krichewski, le président et directeur artistique de Musique au Palais. Il va nous présenter ce concert et son programme de quintettes à cordes. À ses côtés, je salue le fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Deux Serge dans cette émission donc, avec qui nous allons revenir sans plus tarder sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous deux. Il y a un petit moment, vous n'avez pas été réunis dans ce studio et ça fait plaisir de vous y retrouver ensemble. Nous allons revenir pour commencer sur le dernier concert de la saison 24-25 des grands interprètes, donné le 28 mai à la Halle aux Grains. Un vrai concert de gala, Serge, avec un des plus prestigieux orchestres d'Europe et un chef et une violoncelliste qui sont un peu chez eux à Toulouse. On les adore, pour ne pas dire on les adule.
Oui, je crois qu'on peut dire cela. Alors, il faut préciser que cet orchestre était déjà venu en 2008, mais il était à l'époque dirigé par Mi Wuncho. Et cette fois, l'orchestre est venu sous la direction de Tugan Sokiev, un chef que Toulouse n'a plus à découvrir, hein, puisqu'il a quand même occupé la direction musicale de l'orchestre pendant à peu près 17 ans. Donc, c'était vraiment un retour, mais un retour habituel, puisque l'on revoit Tugan Sokiev régulièrement, à la fois dans des saisons comme la saison des grands interprètes, ou à la tête de l'Orchestre national du Capitole, bien entendu, où il est chez lui en quelque sorte. Et puis la soliste de la soirée était la jeune violoncelliste Sol Gabetta, qui est d'origine argentine et qui est venue de nombreuses fois à Toulouse, notamment avec son copain d'études Bertrand Chamaillou. Donc c'est quelqu'un qui là aussi se retrouve chez elle. Alors il faudrait préciser que ce concert, c'est le dernier d'une longue tournée qui a amené ses interprètes à travers l'Europe, et c'était le 10e concert de la tournée, et Tugan Sokiev a avoué qu'il était très heureux de terminer par Toulouse cette série de concerts en tournée. Alors, la première des choses que l'on a pu observer en voyant la disposition des musiciens sur le plateau de la Halle, c'est que la disposition des cordes n'est pas la même que la distribution habituelle, par exemple, de l'Orchestre du Capitole, puisque cette fois, les premiers et seconds violons se font face. Les seconds violons à gauche du podium, du chef, et les seconds violons à droite. Et puis, les contrebasses se trouvent à gauche, au lieu d'être à droite, comme elles le sont habituellement, notamment à Toulouse, mais dans la plupart des orchestres occidentaux. Donc, nous avons eu deux œuvres au programme qui sont d'une part le concerto pour violoncelle numéro 1 de Shostakovich et d'autre part la 7e symphonie d'Anton Bruckner. Et donc, le concert s'est ouvert sur ce concerto pour violoncelle, un concerto qui a été quand même créé en 1959 par son dédicataire et inspirateur Mstislav Rostropovitch. Et alors, dès les premières mesures de ce concerto, c'est ce thème de quatre notes qui est comme un thème signature pour Shostakovich que l'on retrouve tout au long de l'œuvre. Et puis, dès que l'orchestre se met à sonner, là, on est vraiment admiratif du grand son de cet orchestre qui possède une exceptionnelle profondeur, hein, de timbre, richesse de timbre. C'est vraiment un magnifique orchestre. Bon, on le sait, l'orchestre de Dresde est l'un des plus anciens, puisqu'il a tout de même 145 ans. Il y a eu des turnovers depuis, évidemment, mais c'est un magnifique orchestre. Donc Solgabetta s'est jeté dans la bataille, puisque c'est presque une bataille par moment, ce concerto, hein, avec ses fameuses quatre notes, et puis une complicité exemplaire qui s'est établie à la fois entre l'orchestre et la soliste, avec un bel équilibre, à la fois sonore et expressif. Surtout dans ce premier allegretto, une espèce d'intensité caustique que la soliste a donnée à ses interventions. Et puis, on a remarqué d'ores et déjà, dès le premier mouvement, les interventions stratégiques du cor solo. Le cor a un rôle très important à jouer dans ce concerto. Et là, c'était un soliste, mais stupéfiant, une rondeur, une intensité sonore, une richesse, sans parler de la virtuosité qui était tout à fait impressionnante. Et puis ensuite, on a eu cette espèce de berceuse d'une noirceur tragique qui est le deuxième mouvement, qui est une espèce de dialogue méditatif, avec à la fois méditation et désespoir. Hein. Et puis il y a eu ce troisième mouvement qui est une chose incroyable, qui n'est qu'une cadence. Le violoncelle est seul, l'orchestre ne joue pas, c'est une très longue cadence d'une virtuosité redoutable que la soliste a jouée avec vraiment un style, une intensité, une expression magnifique. Et enfin, le dernier mouvement. Alors, les derniers mouvements chez Shostakovich sont souvent des expressions d'une ambiguïté incroyable, c'est-à-dire... Notamment là, il a utilisé des thèmes populaires pour complaire aux autorités qui souhaitaient ça. Mais il en a fait une sorte de caricature grotesque et que la soliste vraiment s'est appropriée de manière flamboyante, on peut dire. Donc, elle a été très applaudie, évidemment, et elle a reçu cette ovation donc il a entraîné vers un bis. Alors un bis, cette fois, en contraste complet, puisque c'est un bis vraiment nettement plus apaisé. Il s'agit de la chanson populaire espagnole numéro 5, qui s'appelle Nana, de Manuel de Falla. Alors quelque chose de très poétique, de très beau. Alors, elle l'a joué avec la ponctuation de quelques notes du Celesta. Le Celesta a accompagné très légèrement le violoncelle dans cette exécution de la danse de la chanson populaire. Et puis la seconde partie de la soirée donc était consacrée, on peut dire, à la plus populaire de ce qu'on a appelé les cathédrales sonores d'Anton Bruckner. Il s'agit là de sa 7e symphonie, dans laquelle s'exprime, comme très souvent, presque toujours chez Bruckner, une sorte de mysticisme exacerbé. Donc, et là, on a vraiment pu admirer la direction attentive et sensible à la fois de Tougan Sokiev, avec ce doux trémolo des cordes qui ouvre la symphonie, qui est, ce trémolo étant appelé, ayant été baptisé Urnebel, c'est-à-dire le brouillard des origines, en quelque sorte. Et donc, c'est une atmosphère de mystère qui ouvre la symphonie. Vraiment, bon, une beauté de timbre qui émanait de cet orchestre, vraiment impressionnante. Et puis, la plénitude sonore du second volet, Adagio, qualifié de « sehr feierlich und sehr langsam », c'est-à-dire très solennel et très lent, qui, alors là, nourrit une sorte de chant mystique, mais qui est dédié à Richard Wagner, puisque le compositeur a déclaré qu'il a appris, au moment où il composait ce mouvement, le décès de Richard Wagner, qu'il adorait, évidemment. Là, il a introduit, alors c'est sûrement la raison pour laquelle il l'a fait, les fameux tuben, ces instruments hybrides, une sorte de synthèse entre le cor et le tuba, qui avaient été inventés par Wagner, justement. Et là, il les utilise avec une sorte d'émotion, de mystère et de solennité. Et puis le scherzo, qualifié de sehr schnell, donc très rapide, qui produit là un contraste étonnant avec ce thème initial du scherzo par les cuivres, qui évoque, d'après ce qu'a dit Bruckner lui-même, les cris des coqs qu'il réveillait lorsqu'il faisait ses études à l'abbaye de Saint-Florian. Donc, il a transcrit ça, les cris des coqs, dans les vocations des cuivres de ce premier thème. Et enfin, le final, animé mais pas rapide, c'est là une sorte de ferveur ardente qui s'exprime vraiment clairement, comme un choral. Là, on voit que Bruckner était aussi organiste, hein, et donc on a vraiment un choral qui est en quelque sorte l'outil caractéristique d'Anton Bruckner. Et vraiment, à l'issue de cette exécution, on a eu l'impression que cette partition avait été composée pour cet orchestre, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle avait été composée pour l'orchestre de Leipzig. Mais c'était vraiment un magnifique concert qui conclut de manière prestigieuse, on peut dire, la saison des grands interprètes.
Oui, sachant que la prochaine saison a déjà été dévoilée, ce sera la 40e.
Et oui.
Et évidemment, il y a une programmation absolument magnifique qu'il faut découvrir si vous n'avez pas encore jeté un œil sur le site internet des grands interprètes. Nous allons avoir le plaisir d'entendre le beau violoncelle de Saul Gavetta dans cette émission avec cet extrait du concerto pour violoncelle et orchestre numéro 1 de Chostakovitch, où elle interprète le deuxième mouvement, ce déchirant moderato. Le très beau deuxième mouvement moderato du concerto pour violoncelle et orchestre numéro 1 de Dimitri Chostakovitch, interprété par Saul Gavetta, une musicienne qu'on aime entendre à Toulouse et qu'on reverra forcément dans les années à venir. Je rappelle donc que la programmation 25-26 du cycle des grands interprètes a été dévoilée et que les abonnements, la billetterie sont déjà ouverts et en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Il y a encore une saison de concerts qui n'est pas terminée, qui se prolonge en ce mois de juin. C'est celle de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, toujours sur la brèche. La semaine passée, l'un des plus anciens orchestres de France donnait ses habituels concerts mensuels à l'escale de Tournefeuille les 27 et 28 mai. Le programme du mois dernier avait pour sous-titre Vivaldi et la mandoline. Et le mandoliniste invité pour jouer du Vivaldi était Julien Martineau, ce qui n'étonnera personne, tant il est le musicien de référence pour cet instrument à Toulouse, dans la région et même bien au-delà. Ce n'est pas la première fois que Julien se produit avec les musiciens de l'orchestre de chambre. Il y a déjà eu de nombreuses collaborations entre eux. Le programme était particulièrement copieux pour ces concerts et l'œuvre de Vivaldi y était bien sûr très bien représentée, avec le concerto RV 127 en ré mineur, le concerto pour mandoline en ut majeur RV 425, le Concerto Grosso à la Rustica Hervé 151, le Concerto Grosso Hervé 158 et le Concerto pour mandoline en Ré majeur Hervé 93. Il n'y avait presque que des tubes du célèbre compositeur vénitien, notamment ces deux concertos pour mandoline, deux musts du genre, même s'ils ont été écrits pour le luth à la base. Difficile de ne pas les mettre au programme lorsqu'on veut que la mandoline soit en vedette, et Julien Martineau, qui les a souvent joués en concert et même enregistré il y a quelques années, a montré tout son talent pour faire chanter la mandoline avec des sons toujours très ronds lorsqu'il les interprétait avec ses camarades de l'orchestre de chambre. Serge Krichevski, Vivaldi est parfois considéré comme un compositeur facile, voire mineur dans le milieu classique. Qu'est-ce que vous pensez de sa musique et notamment de ses concertos pour mandoline ?
Ah, ben les concertos pour mandoline, je ne les connais pas bien, je vais être très
vous
très
les avez entendus.
Je les ai entendus, bon, ils ont un côté comme ça, je dirais presque un peu exotique de cet instrument qui évoque l'Italie, puis qui a un mode de jeu assez particulier avec ses notes répétées. Certainement, ça ne doit pas être facile d'avoir un beau legato, de faire des belles mélodies. Mais Vivaldi est célèbre pour avoir écrit pour un très grand nombre d'instruments différents, des concertos à chaque fois, et pour certains, beaucoup, beaucoup. Alors la mandoline, bon, c'est un instrument qui peut rappeler aussi le clavecin, enfin qui a ce côté un petit peu aigrelet. Bon, c'est agréable, hein, c'est... Voilà, alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je peux vous parler éventuellement des autres concertos. Évidemment, mon instrument étant le hautbois, on a été particulièrement bien servi par Vivaldi. Il y a évidemment, dans ces concertos, il y a quand même des sommets. Hein. Il y a des œuvres absolument magnifiques qu'on ne peut absolument pas qualifier de mineures. Et puis, comme il avait une espèce de véritable production de concertos, donc il y a des moments, bon, voilà, la qualité baisse un tout petit peu, mais enfin, globalement, c'est une musique très très agréable, très vivante. Elle a été toutes ces dernières années beaucoup rejouée et restaurée, on va dire, hein, par l'interprétation sur instruments d'époque. Et ça donne, bon, je pense en particulier à Giovanni Antonini, et puis beaucoup d'autres aussi, bon, des gens de grand talent. Ça donne une couleur vraiment particulière, hein. Il y a une énergie, il y a beaucoup d'énergie dans cette musique. Alors il a aussi écrit évidemment des opéras, on connaît peu, bon, il y a Judita Triumphans, il y a plein d'opéras quand même basés sur la mythologie, essentiellement romaine et grecque, et il y a aussi de la musique religieuse, donc qui est quand même plus de la musique mystique, de l'intériorité de... Donc une œuvre très plurielle, et puis effectivement un grand compositeur de concerto qui a marqué tous les compositeurs qui ont continué à écrire des concertos, en particulier Jean-Sébastien Bach, qui avait une grande admiration, qui a repris des concertos, les a légèrement modifiés, passé d'un concerto pour violon à un concerto pour clavier, mais un des pères du concerto.
Et puis à l'époque, la transcription était une chose tout à fait courante.
Oui, mais je croyais que vous parleriez des transcriptions par les autres compositeurs.
Ah oui, aussi.
Parce que
oui.
Ça, c'est quand même aussi de la part de Bach un signe d'admiration particulier.
Bien sûr.
Pour, bon, il y a eu Handel aussi, qui a beaucoup admiré et transcrit.
Les musiciens de l'orchestre de chambre de Toulouse n'ont pas joué que du Vivaldi, cependant. Nous avons aussi pu entendre des contemporains du célèbre compositeur vénitien, bien moins connus que lui toutefois, comme l'anglais Charles Avison, dont a été jouée la version du Concerto Grosso numéro 3 pour deux violons, violoncelle et cordes en ré mineur, d'après Scarlatti. Autre compositeur peu connu du grand public, Evaristo Felice Dall'Abaco, dont nous avons découvert les 12 concertos da Chiesa, opus 2 numéro 4, des concertos d'église, donc, qui sont en fait des pièces très courtes, très agréables à entendre. Et pour vous faire écouter l'orchestre de chambre de Toulouse dans une des pièces de ce programme, j'ai tout de même choisi Vivaldi et son Concerto Grosso à la Rustica Hervé 151. Thank you. Concerto Grosso à la Rustica, RV-151 de Vivaldi, dans une version concert de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, enregistré il y a quelques années. Revenons maintenant sur la prestation de Julien Martineau, qui n'est pas intervenu que pour jouer les deux concertos pour mandoline de Vivaldi. Il en a joué un autre, d'un compositeur napolitain contemporain de Vivaldi, mais tout aussi peu célèbre que Charles Avison ou Evaristo dall'Abaco. Il s'agit de Domenico Caudioso, qui a composé un concerto pour mandoline en sol majeur. Apparemment, c'est la seule œuvre connue de ce musicien dont on ne sait quasiment rien. C'est une jolie pièce, ma foi. Et puis, ceux qui suivent la carrière et la discographie de Julien Martineau savent que son compositeur de référence est un autre napolitain du 19e siècle, celui-ci, Raffaele Calace, dont notre mandoliniste toulousain aime à rappeler qu'il est le Paganini de la mandoline, celui qui a écrit, selon lui bien sûr, les plus belles pages pour cet instrument dont il jouait lui-même. Julien a enregistré il y a une dizaine d'années les deux concertos pour mandoline de Calace. Il a tenu à jouer le premier mouvement maestoso du second lors de ses concerts à Tournefeuille, à la grande joie du public. Je me dois de préciser que pour ces soirées, les musiciens de l'orchestre de chambre avaient reçu le renfort de Manon Galli en tant que violon solo, ce qui a donné un éclat supplémentaire à la belle performance de l'ensemble toulousain. Il y a eu deux bis, l'un donné en solo par Julien Martineau, qui a joué son arrangement pour mandoline de la fameuse pièce Asturias d'Isaac Albéniz, écrite à la base pour le piano, mais souvent jouée dans sa transcription pour guitare. On sait que c'est un peu l'œuvre signature de notre Thibaut Garcia, j'allais dire national toulousain, Soyons Modestes. Il existe aussi des transcriptions pour mandoline d'Asturias préexistantes, mais elles ne plaisent pas à Julien Martineau. Et selon l'adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il a décidé de réaliser son propre arrangement. Fort réussi, je dois dire. Le second bis a été joué avec l'orchestre. C'était le fameux Largo du concerto pour mandoline RV-93 de Vivaldi. Pour conclure la soirée en beauté et en douceur, nous allons écouter la mandoline de Julien Martineau. Et pour ce faire, j'ai choisi le premier mouvement maestoso du concerto numéro 2 de Calace. C'est la version que le mandoliniste toulousain avait enregistrée il y a une dizaine d'années sous le label Naïve. Thank you. Premier mouvement maestoso du concerto numéro 2 de Raffaele Calacci, joué par Julien Martino, pour conclure cette première partie d'émission. Je signale en passant que nous recevrons bientôt Julien à Mélomanie pour qu'il nous présente la prochaine édition du Festival de Toulouse qui a lieu cette année du 28 juin au 11 juillet. Petite virgule musicale maintenant avant de retrouver Serge Chosy et Serge Krichewski pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et notre agenda, c'est essentiellement le concert que Serge Krichewski et l'équipe de Musique au Palais organisent au Palais Niel à Toulouse le dimanche 15 juin à 17h. Nous allons y venir dans quelques instants avec vous, Serge, mais je voudrais au préalable qu'on fasse un retour sur l'édition 2024 de votre festival. Elle s'est tenue mi-novembre dernier et ça a été un grand succès, aussi bien sur le plan artistique auprès du public. Les salles étaient pleines pour les 6 concerts.
Oui, ça a été une tellement belle réussite que les habitants, donc le général Frédéric Danigo et puis ses chefs de cabinet, organisateurs de toute l'animation qui est très très rare hein, au Palais Niel, parce qu'évidemment c'est un bâtiment quand même, à la fois c'est l'habitation du général et puis... Il s'y passe bien entendu beaucoup de mouvements, de conférences, de rendez-vous importants pour la bonne marche de la brigade parachutiste, la 11e brigade parachutiste. Donc en fait, les événements publics, ouverts au public, sont très très rares. On a eu la chance donc de glisser un petit peu nos affaires dans ce bâtiment magnifique et le festival du mois de novembre marche de mieux en mieux. Cette année, il y a eu très très peu, je pense, de places qui n'étaient pas vendues.
Et c'était à 95% plein sur l'ensemble du week-end.
Absolument, sur les 6 concerts. Et donc, les militaires nous ont demandé tout simplement si on pouvait pas refaire un autre festival pendant l'année. Alors on a dit, écoutez, c'est pas évident parce que c'est quand même un gros travail et puis on a nos activités, il n'y a pas la coupure des vacances, des grandes vacances qui permet vraiment de bien ficeler tout ça, donc on a proposé donc de commencer par un concert isolé. Alors après avoir cherché une date, ce qui n'était pas évident, ça s'est fait d'ailleurs un petit peu tardivement, on a trouvé cette date du 15 juin où nous avons choisi de présenter un concert de quintette à cordes, mais c'est vrai que le thème, donc l'école de Vienne avec vraiment Mozart, Beethoven, Haydn au mois de novembre dernier, était un thème qui permettait de faire écouter, forcément un thème qui a dû exclure beaucoup, beaucoup de magnifiques morceaux, mais qui nous a quand même permis d'en faire entendre aussi quelques-uns très beaux. Il y a un magnifique concert de quatuor à cordes, trio avec piano avec Vincent Martinet, Marie-Astrid Hulot, plusieurs moments, enfin presque tous vraiment exceptionnels.
Voilà, et donc c'était la 9e édition.
Absolument.
Et cette année.
Et on attend,
En novembre prochain, ce sera la 10e. Voilà, donc voilà, on se dit, il faut marquer le coup. Est-ce qu'on peut avoir quelques indiscrétions?
L'indiscrétion principale, c'est que ce ne sera pas en novembre, mais ce ne sera pas beaucoup plus loin. Ce sera, alors là aussi, à confirmer, en particulier parce qu'il y a un nouveau général qui arrive au mois d'août, mais globalement, ils acceptent assez bien ils respectent ce qui a été proposé et puis, disons, ce qui marche déjà bien jusqu'à leur arrivée. Ils vont normalement, j'espère, accepter la date de premier week-end de décembre. Donc, cette année, ce sera tout premier week-end de décembre avec un programme un petit peu plus qui va nous emmener géographiquement dans des lieux un petit peu différents, tous en lien très très fort avec la musique et qui ont chacun une histoire musicale particulière. Voilà.
Donc ce sera un voyage en musique, si je comprends.
C'est ça,
bien,
ce sera un voyage en musique.
Étapes.
Voilà, essentiellement en Europe, mais en Europe, vous le savez tous. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de villes qui ont accueilli, qui ont vu naître et vu mourir aussi.
Des
mais
écoles
qui ont...
aussi.
Voilà.
Quand on parle d'école, bon,
oui,
bah,
oui.
Comprenons-nous bien.
Bah, mais... Alors évidemment, on parlait de l'école de Vienne, il y a l'école de Mannheim. Enfin, il y a bien sûr hein, l'école de Paris aussi. Enfin, bon, ça peut être parfois en peinture aussi. Oui, oui, certaines villes, certaines capitales, ou même pas forcément capitales, voient vraiment se développer un style, parfois, un style particulier pendant quelques années, et puis ce style lui-même finit par ensemencer, par apporter des tas de nouvelles idées.
Donc ce concert du 15 juin hors festival, c'est un événement ponctuel ou il pourrait y avoir comme ça des événements en cours de saison?
Alors,
on l'espère beaucoup.
Je pense que bon, on va voir quelle est la réussite de ce concert exceptionnel. Une de mes idées, entre autres, c'était qu'il y ait une référence dans son programme au festival passé et une référence au festival suivant à venir. Donc voilà, on a un programme simple avec deux grandes œuvres. On peut en parler tout
alors
à l'heure.
On va y venir parce que effectivement, je vais noter que. Le programme prolongeait ce tropisme germanique romantique, pré-romantique, avec deux quintettes à cordes cette fois-ci, un type de formation qu'on est peu habitué à entendre en concert tout de même. Il va y avoir notamment le quintet opus 29 de Ludwig von Beethoven, dont je vous propose d'écouter le quatrième et dernier mouvement, Presto. Serge Krzyzewski nous en dira plus ensuite sur cette œuvre et sur les raisons pour lesquelles elle a été retenue pour ce concert. Quatrième mouvement presto du quintet opus 29 de Ludwig van Beethoven, la première pièce au programme du concert du dimanche 15 juin au Palais Niel. Un mot d'abord, avant de revenir sur l'œuvre elle-même, sur les cinq musiciens qui se produisent ce jour-là, Serge. Nous allons y retrouver des têtes bien connues de membres de l'Orchestre national du Capitole.
Oui, alors on est parti de l'équipe qui avait interprété ce magnifique concert de Quatuor à cordes au mois de novembre. Donc, commençons par les dames. Donc, Éléonore Epp, second violon, Sarah Yankou au violoncelle. On avait comme altiste...
Juliette Gilles aussi.
Alors, on avait comme altiste Laura Ensminger, qui n'était pas disponible pour cette fois-ci. Et on avait Christy Ghezzi. Donc, on aura Éléonore, Christy Ghezzi, Sarah. Et les deux altistes seront donc Bruno Dubarry et Juliette Gilles. Donc vraiment tous d'excellents musiciens qui sont habitués à jouer ensemble déjà en dehors de l'orchestre et bon, des gens très, très vifs, très brillants. Donc ça va être certainement un très très beau moment. C'est vrai que deux œuvres, alors paradoxalement ce ne sont pas véritablement les œuvres que je leur avais proposées en premier. J'ai toujours bon, plusieurs idées possibles parce que les musiciens ne sont pas obligés d'accepter ce qu'on leur demande et j'étais plutôt parti sur le quintet en sol mineur de Mozart et sur un Mendelssohn, un quintet de Mendelssohn qui sont aussi très peu joués. Et puis, il y avait, bon, j'ai proposé quand même des alternatives. Et parmi les alternatives, il y avait ce quintet de Beethoven que j'aime beaucoup depuis longtemps, que j'avais découvert par le quatuor de Budapest sur un disque qui comportait aussi évidemment les quatuors. Parce que Beethoven est très célèbre pour ses quatuors, et beaucoup moins pour son quintet. Peu de gens savent qu'il en a écrit un. Et il a été écrit juste après l'opus numéro 18, qui est le premier ensemble de six quatuors écrit par Beethoven juste avant les années 1800. Le début le tournant du
alors l'opus 29 c'est 1801.
Voilà, c'est juste après.
Il a 31 ans.
Voilà. Et donc c'est la période de transition avant qu'il se mette à écrire pour Razoumovsky, cette commande des trois quatuors pour le prince Razoumovsky. Donc il y a déjà toute l'expérience des quatuors à cordes, et puis il y a ce cinquième larron ou cette cinquième larronne qui arrive et qui étoffe le discours. Et ce qui est très intéressant, alors là, dans ce qu'on a entendu comme la version avec Yo-Yo Ma, le tempo était poussé vraiment très très loin, la rapidité du tempo, et ce qui nous menait presque à une esthétique un peu mendelssohnienne. Mais c'est intéressant de voir comment l'allure peut changer l'esprit d'un mouvement, d'une musique. Bon, il y a beaucoup de dans les mouvements, les trois précédents mouvements, beaucoup de moments qui font penser à Schubert, et je crois que Schubert aimait particulièrement ce quintet, et notamment, bon, il y a des moments qui évoquent clairement le quintet à deux violoncelles que Schubert écrira quelques années après. Donc une œuvre vraiment à découvrir. Elle est beaucoup moins jouée en concert, mais quand même enregistrée plusieurs fois. Et donc, c'est un peu cette référence au Festival Musicopalais 2024, donc dans lequel il y avait vraiment à l'honneur l'École de Vienne, dont Beethoven est vraiment le pilier, enfin le prolongateur et l'enfant vraiment béni des dieux.
Voilà, donc œuvre d'un Beethoven encore relativement jeune,
hein,
puisqu'il vient de passer la trentaine. Alors que la seconde œuvre au programme, le quintet à cordes numéro 2, opus 11 de Johannes Brahms, en revanche, c'est une œuvre beaucoup plus tardive dans la carrière de son compositeur. Elle aurait même dû être la dernière,
je crois.
Il la compose en 1890, 7 ans avant sa mort.
Effectivement, je n'avais pas réalisé à quel point les deux œuvres sont espacées de presque 100 ans. Enfin bon, alors que Brahms s'est toujours désigné ou a toujours cherché ardemment à être le continuateur de la musique de Beethoven et de son œuvre, ils ont... une production de musique de chambre, tous les deux, bon, très importante, mais comme on le sait souvent et qu'on en parle, Brahms était extrêmement... avait une très grande autocensure et il a déchiré beaucoup de partitions qu'on aurait probablement aimé entendre, mais bon, il en a gardé environ 25 pour la musique de chambre, alors que Beethoven, bon, il a écrit beaucoup plus, notamment, bon, un seul quintet à cordes qu'on ne connaît pas forcément, mais quand même 17 quatuors, beaucoup de trios avec piano, bon, voilà. Brahms, c'est quand même 25 œuvres, et effectivement, vous le disiez à juste titre, Eric, Brahms, le premier, pensait en avoir terminé avec le genre musique de chambre, et puis, comme pour Mozart avec Anton Stadler, Brahms a rencontré Richard Mühlfeld pour lequel voilà. Alors, Brahms avait déjà utilisé magnifiquement la clarinette dans ses symphonies et ses œuvres précédentes, mais il a eu comme ça un bouquet de quatre œuvres extraordinaires pour clarinette à la fin de sa vie, après ce quintet qui est déjà l'opus 111, hein, ce deuxième quintet en sol majeur que nous entendrons le 15 juin, c'est opus 111, alors que Brahms a été jusqu'à 125 à peu près. Il y a juste après bon, le trio pour clarinette avec piano, le quintet avec clarinette et les deux sonates opus 120. Et puis après, il y a des œuvres avec chœur, des œuvres qui restent. Mais on est proche de la fin de la production de Brahms, qui était toujours... Oui, il y a des pièces avec piano, les magnifiques, les sigles de Clavierstück, opus 117, 18. Mais voilà, c'est vraiment... Et en même temps, c'est une œuvre... Bon, Brahms a souvent cette image de compositeur très mélancolique, hyper romantique, voilà, à l'extrême fin du romantisme. Et pourtant, c'est une œuvre qui a beaucoup de moments de gaieté, qui a beaucoup de moments très joyeux, de sérénité, très dynamique. Évidemment, l'ouverture, c'est-à-dire ce grand solo de violoncelle qui fait une très grande ligne vers l'aigu sur plusieurs mesures, accompagné d'un foisonnement de batterie des quatre autres instruments, ça, voilà, c'est plein de sève, hein. C'est vraiment une musique très, très enthousiaste. Enthousiaste, très, très agréable.
Donc, quatre mouvements aussi comme,
Le quintet
de Beethoven. Les deux œuvres sont séparées, vous l'avez dit, de presque un siècle, 90 ans.
Oui,
il y en a une qui est tout début du 19e et l'autre qui est vraiment de la fin. En quoi c'est intéressant de les mettre en regard lors d'un même programme ?
Alors déjà, y a ce lien quand même presque... Enfin, on sait bien que Beethoven a inhibé pendant très longtemps...
Notamment pour les symphonies.
Johannes Brahms. Il a inhibé pas seulement Brahms, mais Schumann. Tous les compositeurs après Beethoven avaient beaucoup d'hésitation à se lancer dans la composition d'une symphonie. Pour Brahms, ça a été vraiment très, très problématique, hein. Mais pour la musique de chambre, même s'il a écrit de la musique de chambre plus tôt, il a écrit aussi ses concertos, des sonates pour piano, avec toujours dans la tête le corpus beethovenien. Quand il écrit au tout début ses premiers opus qu'on a gardés, Brahms, c'est des sonates pour piano. Il y en a deux ou trois qui se suivent. Et évidemment, il y a les 32 sonates de Beethoven derrière qu'il a en tête, qu'il a jouées, qu'il joue à ce moment-là. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que son grand ami Joseph Joachim, qui a certainement, faudrait vérifier, mais s'il a créé ce quintet opus 111, a aussi beaucoup joué le quintet de Beethoven. Il l'a un peu diffusé, puisque Joachim a survécu à Brahms de pas mal d'années. Hein. Il a continué sa carrière de chambriste. Donc il y a effectivement ce lien qui est presque... C'est le père, c'est le commandeur, hein, d'une certaine manière. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que Brahms... exactement comme Beethoven, est allé s'installer à Vienne, assez jeune, et il a vécu absolument toute sa vie à Vienne. Tous les deux, ce sont des Allemands presque du Nord. Bon, Beethoven, c'est Bonn.
Hambourg
pour Brahms. Donc, Hambourg, Vienne, rapport à Hambourg, c'est carrément la Méditerranée, presque. Hein. Et puis, bon, évidemment, adoré de tous les musiciens viennois, de l'orchestre, et chaque œuvre attendue avec impatience, etc. Donc, il y a ça, et puis, il y a aussi le côté, peut-être, le romantisme, le côté solitaire que Brahms cultivait, dont il avait besoin aussi pour pouvoir composer sereinement.
Voici le premier mouvement Allegro d'un troppo ma con brio du quintet numéro 2 opus 111 de Johannes Brahms.
Thank you.
premier mouvement Allegro non troppo ma con brio du quintet numéro 2 plus 11 de Johannes Brahms, la seconde œuvre au programme du concert qu'organise l'équipe de musique au Palais dimanche 15 juin à 17h au Palais Niel à Toulouse. Avant cela, il y a un autre concert à ne pas rater, celui de l'Orchestre National du Capitole, ce jeudi 5 juin à 20h. C'est en fait un ciné-concert, Serge Chosy, et chose inhabituelle, il a lieu au Zénith de Toulouse Métropole. Quand on sait de quel film il s'agit, on comprend pourquoi.
Mais exactement, puisqu'il s'agit de la saga des Star Wars, Un Nouvel Espoir, qui sera donné en version originale, sous-titrée en français, précisons-le, et dont la musique, dont je vous rappelle qu'elle est signée de John Williams, sera jouée donc par l'Orchestre du Capitole, sous la direction de Ernst Van Til, qui est un chef d'orchestre néerlandais, spécialiste justement des concerts de films avec orchestre. Donc c'est quelqu'un qui est très habitué à ceci. Et là, donc, on aura droit à la partition musicale écrite par John Williams, en même temps que le film sera projeté.
Serge Krzyzewski, je sais que vous n'y serez pas, vous ne serez pas dans l'orchestre, mais je vous ai posé une question concernant Vivaldi. Je vais vous poser un peu la même concernant John Williams. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa musique? Parce que, bon, on sait que c'est un grand compositeur de musique de film, mais on l'a souvent accusé d'être à la limite du plagiat pour certaines de ses bandes originales. Qu'est-ce que vous
pensez? Je vais vous répondre quelque chose de peut-être pas très gentil. Alors, c'est marrant parce que Stravinsky, qu'on évoquait tout à l'heure à propos de Vivaldi, qui n'a pas été très gentil avec Vivaldi, n'était pas non plus très gentil avec les compositeurs de musique de film.
Non,
il disait que la musique de film, c'était de la musique pour les papiers peints, tout juste bonne pour les papiers peints. Bon, il y a eu de grands compositeurs, heureusement, qui ont écrit pour le film. Il y a eu des rencontres magnifiques. Bon, John Williams, à n'en pas douter, bon, il y a quand même une étincelle qui s'est produite entre lui et puis Spielberg, et ensuite c'est ça, hein, tous les films, pas seulement la saga Star Wars, mais même d'autres films pour lesquels il a écrit des musiques. Alors la question du plagiat, si vous voulez, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que en réalité, d'une certaine manière, toute la musique de film est une musique qui est basée sur d'une certaine manière un plagiat plus ou moins, voilà, il y a peu de compositeurs de
plus
musique
ou moins
de film,
filmé, vous voulez dire?
Oui, enfin plus ou moins avéré, annoncé, voilà, ils ont, alors ce sont des artisans absolument fabuleux, ces compositeurs qui ont en tête et dans la main toute l'histoire de la musique, qui savent absolument quel effet produire avec telle combinaison d'accords, quelle combinaison instrumentale, quel effectif orchestral, etc. Bon, John Williams, je ne connais pas absolument toute son œuvre, parce qu'il y a peut-être une œuvre de musique dite sérieuse, mais en tout cas, pour le versant musique de film, c'est un peu toujours dans la même veine. C'est-à-dire, ce sont des orchestres en général très, très, très volumineux, qui sont des orchestres post-romantiques. Hein. C'est une musique qui procède de Wagner, Mahler, etc., avec parfois des harmonies un tout petit peu plus modernes. Il y a peu de rajouts au niveau rythmique, par exemple. Mais il y a une très grande maîtrise de l'orchestre, indéniablement, et puis un talent de mélodie, bon, qui sont des mélodies souvent, qui évoquent quand même la musique du 19e siècle, la musique fin 19e, post-romantique. Mais en tout cas, un talent indéniable. Hein, c'est,
Oui, je pense que ça, personne ne le contestera. Pas question de finir cette émission sans écouter un extrait de la fameuse bande originale du film Star Wars, composé par John Williams, dont nous parlions à l'instant. C'est une version concert de l'Orchestre National du Capitole. Elle est dirigée par Tugan Sokiev.
Thank you.
Un extrait de la bande originale de Star Wars, interprété par l'Orchestre National du Capitole lors d'un concert dirigé par Tougan Sokiev. Mais c'est bien Ernst van Til qui dirige l'ensemble symphonique toulousain pour le ciné-concert Star Wars Un Nouvel Espoir, ce jeudi 5 juin à 20h au Zénith de Toulouse Métropole. La billetterie est en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle que la 17e édition du festival Passe-ton-bac d'abord a lieu du vendredi 6 au dimanche 8 juin dans divers lieux de la ville de Toulouse. La programmation est superbe et très éclectique comme d'habitude. Vous pouvez en retrouver le détail et acheter vos places de concert en ligne sur le site www.baroquetoulouse.com. Je signale aussi que la 19e édition du festival Ton Voisin se déroule à Albi du 3 au 7 juin sur le thème Schubert à Vienne. Billetterie en ligne à l'adresse www.ton-voisin.com. Et je rappelle enfin que le concert de quintettes à cordes organisé par Musique au Palais au Palais Niel à Toulouse se tient le dimanche 15 juin à 17h avec une formation de 5 musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Billetterie en ligne sur le site www.musiqueaupalais.org. Je remercie Serge Chosy qui a co-animé ce numéro avec moi, ainsi que Serge Krzyzewski, notre invité d'honneur qui nous a présenté ce concert. Merci également à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.